Je crois que dans la conception de la formation, ce qui est nouveau, c'est une considération plus ample et plus complexe de la personne humaine. Peut-être de façon un peu superficielle, on pourrait dire que dans le passé, eh bien, le séminariste était formé en faisant des cours de théologie, en passant des examens, point final. Aujourd'hui, on met beaucoup plus d'attention sur la formation intellectuelle, certes, mais aussi la formation humaine, la formation psychologique, l'attention à un parcours de spiritualité. Alors je pense que c'est ça qui est nouveau, c'est cette considération de la personne humaine dans des aspects beaucoup plus amples, si bien que dans le parcours de la formation, il va y avoir des tests psychologiques. Ce n'est pas suffisant, mais c'est quand même important. Une attention à un accompagnement spirituel, et puis aussi une attention à des éléments qu'autrefois, on considérait peut-être un peu secondaires ou qu'on ne considérait pas du tout. Par exemple, les aspects de la vie affective et sexuelle. C'était laissé un peu au domaine personnel et de la conscience. Aujourd'hui, aussi provoqué par l'abondant matériel pornographique ou l'abondante, comme on dit en italien, pansexualité, il faut qu'à l'intérieur de l'Église, il y ait aussi une formation pour que la sexualité soit manifestée dans sa vérité théologique, c'est-à-dire une vérité qui participe à l'expansion de la personne et à la manifestation de la capacité d'aimer de la personne. Alors, si vous voulez, c'est un peu cet horizon beaucoup plus ample de considération de la personne qui a introduit des changements dans le parcours de formation.
Pour revenir sur l'aspect de la sexualité, comment vous pouvez vraiment aborder ce genre de question qui est quand même de l'ordre de l'intime également et qui souvent est encore assez tabou, surtout pour des hommes qui se destinent au célibat et à la chasteté?
Alors, le fait que la sexualité a été considérée tabou, c'est un peu, disons, un héritage négatif du passé. Parce que la sexualité a été associée au péché, alors qu'en réalité, le péché originel n'est pas lié à la sexualité. Le péché originel est décrit dans l'Écriture et donc nous est révélé, puisqu'il s'agit d'un mystère, plutôt comme une rupture de la relation avec Dieu, c'est-à-dire une rupture de ce qui rend l'homme heureux et à l'image de Dieu. Alors ça, c'est le premier déplacement. La sexualité n'est pas égale péché. Ensuite, la sexualité était liée à la relation avec la femme, d'où on a associé énormément dans la formation une espèce de phobie de la femme. Alors, en plus, on a imaginé que le célibat était éliminer la sexualité, comme si la chasteté était ne pas tenir compte de la sexualité. Or, la chasteté, c'est une capacité d'intégration de la vie sexuelle, d'intégration dans un parcours qui rend la personne ouverte aux autres, qui rend la personne disponible, qui la fait être capable d'aimer sans la médiation sexuelle. Alors vous voyez, il y a beaucoup de choses qui sont quand même éclairées aussi par un parcours théologique qui est nouveau. Imaginez que dans le passé, on pouvait enseigner, on pouvait avoir tout un parcours de théologie sans jamais parler de la différence homme-femme, sans jamais parler de l'importance de la sexualité, et justement sans parler non seulement de l'importance de la sexualité, mais de l'aspect fondamental de la sexualité dans la réalisation de la personne humaine. Donc, vous voyez, ça fait beaucoup de choses qui sont impliquées dans ce symposium, dont aussi un certain changement dans la théologie. Le péché n'est pas lié à la sexualité. Le péché, c'est de l'ordre vraiment de la relation avec Dieu. C'est pourquoi, même si l'aspect, disons, psychologique est important, on a mis bien en évidence qu'on peut avoir un bon accompagnement spirituel, on peut avoir un bon accompagnement psychologique, on peut avoir un bon supérieur. Ça ne suffit pas s'il n'y a pas une option personnelle, une formation que soi-même on se donne d'une certaine façon, parce qu'il n'y a que la personne même qui est capable de dire eh bien, oui et non. Aucun supérieur ne peut être là à tout moment pour dire oui et non.
Est-ce que ça veut dire qu'il faut apprendre à chaque candidat à la prêtrise à s'accepter tel qu'il est, c'est-à-dire comme homme, comme être sexué?
Je crois qu'il faut commencer par là. Accepter ce qu'on est et accepter l'autre comme autre. Et de nouveau, c'est un principe théologique. Si on n'accepte pas que Dieu est Dieu, c'est ça le péché. C'est d'avoir refusé que la parole de Dieu soit la parole de Dieu, devant laquelle on a une attitude d'obéissance, pas seulement pour le contenu de cette parole, mais pour qui est celui qui me dit cette parole. Alors, cette reconnaissance de l'autre est le principe de la foi. Je reconnais que Dieu est Dieu, qu'il m'est très proche, mais en même temps qu'il est autre. Et c'est pourquoi, dans toutes les formes d'altérité, comme adulte, je reconnais qu'un enfant est un enfant. Comme homme, je reconnais qu'une femme est une femme. Comme femme, je reconnais qu'un homme est un homme. Comme occidental, je reconnais qu'un oriental est un être créé à l'image de Dieu, etc. Toutes les différences sont incluses, d'une certaine façon, dans la différence sexuelle. Ça, c'est un principe théologique qui est fondamental. Donc, on apprend la relation avec un autre, adulte, enfant, homme, femme, et on apprend à devenir chrétien.
On a vu également durant ces débats que d'un continent à l'autre, et même parfois d'un pays à l'autre, la perception du problème de la pédophilie était totalement différente. On l'a bien vu avec deux interventions, notamment un prêtre brésilien et l'archevêque de Manille aux Philippines, que l'acte en soi d'avoir peut-être un geste qui pour nous Européens pourrait être considéré comme déplacé envers un enfant est considéré comme quelque chose de tout à fait normal. Comment dans ce cas-là, du point de vue théologique, qui je dirais est universel, donc valable pour tous, comment pouvez-vous réussir à faire passer ce message et cette évolution, qui n'est pas mince, à l'ensemble et des séminaires du monde entier?
C'est vrai qu'il faut faire attention aux cultures. Hein. D'une culture à l'autre, il y a des gestes, il y a une façon d'exprimer la relation qui change. Mais alors attention, parce que quand il s'agit d'abus sexuels, généralement, cette même personne a d'autres manifestations de déviance, c'est-à-dire un style de vie qui n'est pas correct, une attitude par rapport, eh bien justement, à l'obéissance ou par rapport à la prière. Donc, il ne faut pas qu'il y ait une phobie du sexuel. Hein. C'est l'ensemble de la vie d'une personne qui indique que sa vie est ordonnée ou qu'il y a un désordre. Alors, quand vous voyez quelqu'un dans une culture qui fait un geste très affectueux envers un enfant, ce geste est sain et saïen parce que cet homme est aussi capable de renoncer à une belle voiture, de renoncer à certains plaisirs. Il a une vie où il est capable de dire oui et il est capable de dire non. C'est pour ça que chaque culture doit réinventer, d'une certaine façon, son attention au problème des abus sexuels, justement pour laisser que l'enfant soit dans un climat chaleureux et puis confiant. Imaginez qu'un enfant ne recevra jamais une caresse d'un adulte. C'est tragique aussi. Ce qui est important, c'est qu'il puisse recevoir des caresses, mais qu'il l'aide et qu'il soit dans un contexte qui respecte son âge, son besoin de grandir, son besoin de pureté, son innocence.